C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Tu vas nous parler de quelque chose qui a fait réagir nos auditeurs tantôt.
Oui, c'est ça.
Les pattes de nos chiens qui ont une odeur particulière.
Hein?
Ouais, c'est Valérie.
Martin, qui a mis... t'as jamais senti l'odeur des pattes de ton chien?
J'essaie le moins que quand je le vois travailler dans la cour, mettons, puis comment qu'il se gratte tout. J'essaie de pas me mettre le nez là, mettons.
Il dit la même chose.
Faudrait que je fasse l'exercice probablement.
on en reparlera, mais c'est vraiment un phénomène qui est étrange, mais très courant, que celui des propriétaires de chiens qui trouvent qu'il y a une odeur particulière qui provient des pattes de leur chien, en particulier des orteils, tu sais, fait que vraiment où il y a la petite griffe.
Le petit coussinet, là.
Et souvent, exactement. Souvent, là, j'ai dit les Fritos parce que c'est comme le classique, mais c'est vraiment l'odeur des chips de maïs. Puis sur la messagerie texte, nos auditeurs disent des Doritos. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment la chips de maïs. OK. Eh bien, il y a des vétérinaires qui ont confirmé que c'est normal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça sent les chips de maïs et ça peut être quelques éléments. Souvent, l'élément numéro un, c'est une bactérie.
Ouais, c'est
une bactérie qui s'appelle Proteus. Ça se trouve couramment sur la peau des chiens puis de plein d'autres animaux. Et ça produit un genre de composant qui s'appelle la putrescine. Et ça, c'est dégueulasse le mot, hein, je sais.
Ah oui.
Et ça, c'est responsable de l'odeur de chips de maïs.
Ah.
C'est ça.
En même temps, on était à une salsa d'un petit party du Super Bowl avec ses pattes. Là,
ah! Que...
C'est le dip.
Ah! Que...
Ah!
On dit qu'il y a certaines races de chiens qui vont être plus susceptibles d'en avoir. Par exemple, si ton chien a des plis cutanés plus prononcés.
Un pug, mettons.
Et voilà, un pug, un bulldog, l'écharpé, eux autres vont souvent même à travers les plis, des fois développer cette odeur-là parce que la petite bactérie va se répandre dans des environnements qui sont chauds et humides. Fait que les pattes, les coussinets, c'est une affaire, mais aussi les plis pour certains chiens.
Dans le fond, un pug, c'est un ruffle.
Ouais.
Genre, on dit aussi que les races qui ont du pelage épais, genre Golden Retriever, les Labradors, les Saint-Bernard, dans la fourrure... C'est tellement épais, ça peut piéger l'humidité et ça peut créer la bactérie. Et donc, même outre les pattes, le
chien complet
pourrait sentir le frito.
Ton chien sent la frito,
c'est tellement
cool. C'est
sûr que je vais renifler un peu.
Et là, le problème, c'est pas tant que le chien sente ça que peut-être que c'est le frito qui sent ça, finalement.
Oui, c'est la chute de maïs.
C'est peut-être ça, les trucs.
Ben, c'est bien particulier. Il y en a qui disent que ça sent le popcorn. Il y a quelqu'un qui a écrit ça tantôt.
Ben, à vrai dire, c'est le maïs.
C'est le maïs.
À la base, c'est pas mal ça.
Ça
dit quand même de faire attention. Tu sais, c'est cocasse, puis la bactérie, c'est pas la fin du monde si elle est là. Mais c'est pas avoir des problèmes de ça peut donner des signes de problèmes sous-cutanés, sous-jacents, genre des champignons qui peuvent être là, une infection fongique, une infection à levure. Il y a même des chiens qui vont avoir des allergies au pelage, aux pattes, et que ça va sentir après ça la chips de maïs.
Ah, ah ouais, OK.
Ouais.
Fait c'est pas nécessairement un signe de santé, nécessairement,
non.
Tout le temps. Là.
À vrai dire, il dit, mettons, si c'est rocher, si c'est irrité, si le chien trouve que, tu sais, grignote souvent autour, s'il y a des sécrétions, tout ça implique une visite au vétérinaire. Mais sachez que si vous êtes normal, si vous trouvez que les pattes de votre chien sentent la chips de maïs, c'est vraiment une petite bactérie.
Merci beaucoup, ma chère Valérie. Il y a plein de chiens qui vont se faire sniffer les pattes aujourd'hui, je vous
tellement.
Le garantis.
Oui, juste un petit chiffon humide, il paraît, ça aide.
Ah oui, hein? OK. Oui. Mao, prépare-toi, je m'en viens.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est très, très drôle. Une compétition de parents.
Ça s'appelle la pub Parents gonflables et c'est Naître et grandir qui fait ça. Naître et grandir, si vous avez eu un enfant dans les dernières années, vous le savez, là, c'est un site de référence sur le développement des enfants. Et eux autres veulent parler du fait que être parent, ce n'est pas une compétition. Et la publicité, évidemment, c'est une publicité télévisée. Mais là, j'ai l'audio quand même.
Okay,
vous allez comprendre le principe.
Oui.
On l'écoute.
Wow! Ça mange bien. Purée maison.
Nous, c'est la DME.
Exact. Nous, on fait tout maison, puis j'allaite en plus.
DME, j'allaite en plus, puis aucun écran.
Aucun écran, on fait tout maison, j'allaite en plus, puis on est aux couches lavables.
On fait tout maison, 100% biberon, puis on a un docteur en parentalité positive.
On fait tout maison, j'allaite en plus, parentalité positive, puis on l'endort demain.
Et là, l'enfant le s'endort.
Exactement.
Comme s'il était hypnotisé.
Mais ça a un timing pas possible. C'est tellement drôle.
À claque des doigts, le bébé s'endort.
Et on comprend que à la base, c'est juste une discussion entre des parents qui disent « Ah ben moi, j'ai essayé la DME. Ah ouais, moi j'ai en plus de ça, je fais les couches lavables. » Et donc, comme les voisins gonflables, tu veux changer ton char si ton voisin change ton char, tu changes ta pelouse si ton voisin change sa pelouse. La parentalité, ça peut être ça aussi. Ça peut paraître comme une compétition. C'est ce que nous dit Naître et grandir. Puis eux autres, ils disent « Bon, finalement, trouve ton style sans pression. » Mais ça m'a tellement fait rire parce que c'est tellement vrai.
Ah, ben, ouais.
Je te jure, c'est terrible. Pour avoir un enfant de bientôt 2 ans, là, les comparaisons quand t'as des discussions avec les autres. « Ah, moi, il marchait. Moi, il marchait à 15 mois. Ah oui. Ah, moi, à 14 mois, il était déjà debout. Hein? »
Mais c'est pas juste cette pression. Là, vous sentez, Billy, t'es-tu là-dedans aussi?
Oui, des fois, c'est pas nécessairement juste ils se vendent, c'est ils donnent des conseils parce que eux autres, ça a marché comme ça. Fait que pour eux autres, ça devrait être comme ça. Là, t'sais.
Oui.
C'est, ah ouais, ah, tu dors encore avec ton enfant? Des fois, ton enfant, il revient te rejoindre dans ton lit. Comment ça, vous vous dormez avec? Vous devriez pas faire ça. Là, il va tout le temps vouloir être dans votre lit. Là, t'es comme, hey,
t'as pas encore commencé à le rendre propre? Mais voyons, tu préfères déjà. Il te le demande pas. Mais...
Sérieux, c'est déjà stressant être parent. Quand en plus, tu t'ajoutes ce stress-là supplémentaire de te comparer aux autres, je trouve que c'est invivable. Mais c'est vrai.
Fait que la pub est vraiment drôle, puis elle joue beaucoup
la importante.
Oui. Puis moi, des fois, vous le savez, là, je suis comme influenceuse. Fait que des fois, je vais céder à la tentation de ce que l'autre personne me dit, puis je vais l'essayer. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est quoi l'affaire auquel t'as toujours résisté, même si tous les parents autour de toi voulaient que ça se passe ainsi.
Okay.
Genre, mettons, nous à la maison, les filles, malheureusement, n'ont jamais eu les estifies de lutin de Noël.
C'est pas arrivé chez vous.
Honnêtement, non. Okay. Grand-maman a essayé à plusieurs reprises. Oui. Elle en a acheté, elle les a installées chez nous. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Tu vas nous parler d'Astérix?
Astérix, me laissez faire Avatar. Parce que Astérix sort demain. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. et c'est un film de Guillaume Canet. C'est Astérix et Obélix qui devront sauver une impératrice de Chine et blablabla.
Joué par Marion Cotillard.
Exactement. Il y a vraiment un casting assez incroyable, là, comme toutes les Astérix qui ont eu lieu. Et là, ben, les critiques sont sorties. Et pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, on a, entre autres comme titre, Astérix et Obélix, l'Empire de la Honte.
Ouais.
Et on a aussi Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, Il est pas frais son poisson.
Oh.
Ouais.
Alors, je vous lis la critique.
Bon.
Ben, je te lis la critique, j'ai le premier paragraphe, OK? Cet accident prend la forme d'un cauchemar où rien n'est réussi et où ses auteurs ont choisi pour tenter de rassembler le public un humour grossier ainsi qu'un défilé paresseux et insensé de stars. On relève néanmoins un tour de magie intéressant, faire disparaître 65 millions d'euros en un claquement de doigts.
Oh ben voyons donc!
C'est une violence. Mais moi, c'est le questionnement que j'avais. J'ai vu des previews, je me souviens pas dans quelles circonstances, mais je voyais donc que la franchise est là. Pour vrai, Astérix, depuis qu'on l'a fait avec Gérard Depardieu, les premiers. Mais on a peut-être cette nostalgie-là aussi de ce casting-là qui est un peu qui existait dans le temps, qui est renouvelé, j'ai l'impression. Moi, je reconnaissais pas les nouveaux personnages, même si c'est des stars actuelles.
Je trouvais que le Obélix était quand même ressemblant.
Ouais, moi, c'est Édouard Baird, je pense qu'il joue.
Non, c'est.
Peu importe.
Gilles Lelouch.
Ouais, mais je trouvais qu'il ressemblait plus que quand c'était.
Que Depardieu.
Depardieu était parfait. Ouais. Après ça, ils l'ont remplacé pour le dernier film, je pense, ou en tout cas.
Non, c'est Gilles Lelouch est le premier à le refaire après Gérard Depardieu.
Ouais. Ah oui? Ah, j'étais sûr qu'il n'était pas là.
Mais peu importe, la critique, ils le démolissent.
Ben oui, parce que ils vont avec des gags faciles de ce qu'ils disent. On parle d'un personnage japonais qui s'appelle... d'un personnage chinois qui s'appelle Deng Xingqing. Et là... Mais c'est ça. Pour moi, c'est comme...
Il y a un niveau épais, là. On peut jouer épais aussi.
C'est ce qu'on dénote beaucoup dans le truc. Tu sais que l'histoire se tient pas, que y a, tu sais, mais Mais on dirait que c'est tout le temps ça, un peu, les Astérix. Tu sais, je vais pas écouter ça parce que je me dis que le scénario va me jeter à terre. Il faut que ça soit des gags accessibles, que ce soit gros, que ce soit niaiseux.
C'est cartoon, là.
Si tu veux un bon scénario quand même, oui, faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin.
Ben, là, ce qu'on dit, c'est que ça on part dans une histoire qui se termine pas à certains endroits.
Tout est prétexte à gag plutôt que.
Ben, tu sais, comme Big Flo et Oli, ce qu'on dit, c'est qu'on fait vraiment un détour pour aller les chercher parce qu'ils sont dans le film et que ça n'a pas de lien avec ce qui se passe en Chine. Tu fais, OK, on a fait un détour pour juste les intégrer.
C'est rare quand même que les critiques ne vont même pas souligner de points positifs. Tu sais, genre, j'ai quand même trouvé que les acteurs étaient quand même bien dans leur rôle. Il y avait certains éléments positifs du scénario où je m'en suis tirée après 2 heures avec quelques rires. Tu sais, le premier paragraphe est tellement
rentre dedans,
assassin, là. C'est vraiment rare.
Moi, j'ai trouvé ça, j'ai vu beaucoup de promotions pour le film de Guillaume Canet qui était en entrevue puis qui disait, si les gens viennent pas voir le film, c'est-à-dire qu'après la pandémie, un gros blockbuster comme ça, ben, je vois pas comment le cinéma français va pouvoir continuer à revenir en salle. Fait qu'on dirait qu'il a comme mis une pression en disant, notre film, on a fait des tests, là, la réponse est bonne. Donc, si les gens viennent pas, c'est que les gens veulent plus aller au cinéma. Il y a comme mis une pression. Puis je pense que les critiques se sont braqués puis ils l'attendaient avec une brique de fanal.
Mais en tout cas, Danielle Paquette-Harvey vient de nous écrire sur la messagerie texte. C'est une de nos auditrices. Elle dit, j'ai été le voir la semaine passée et j'ai adoré. C'est qu'elle avait gagné des billets pour l'avant-première. Elle y a été avec ses enfants. Et elle dit, c'est le premier Astérix et Obélix qui est vraiment drôle. Depuis le Cléopâtre, elle a adoré.
Ah ouais, okay.
Comme quoi, c'est une question de
goût. Ça dépend ce que tu recherches. Ce que tu vas chercher, c'est ça.
Mais c'est sûr qu'on est dans la légèreté.
Ben oui.
Je pense que c'est ce dont on a besoin. En tout cas, moi, personnellement, la légèreté, je la prends à ploter.
Ben moi, c'est une franchise, en tout cas, que j'aime, Astérix, pour vrai, quand ils l'ont fait en personnage réel. Ouais. C'est quand même, comme je te dis, c'est pas des grands films, mais c'est des films qui fonctionnent bien à date, moi, en tout cas, ce que j'ai vu.
Le cerveau à off.
Je vais quand même donner une chance, comme Daniel le dit, merci de vos nombreuses.
Mais vas-tu donner une chance en cinéma? Je pense que ça va être là le nerf de la guerre.
Il n'y a pas beaucoup de films que je donne des chances en cinéma, pour vrai. Je suis pas très amateur d'aller au cinéma, mais moi, non, probablement pas, mais je vais l'écouter. Je peux le louer, par exemple.
Ouais.
Je vais le louer quand même à la maison.
Tu peux aller au
Blockbuster. Il est pas si niaiseux que ça. On dirait que tu le prends pour un ancestral.
Tanné.
Le podcast Debout les comiques.
Billy, tu tombes en dépression majeure. Est-ce que tu peux considérer que tu vis un accident de travail?
Oh, tabarouette!
C'est une question qui est soulevée en page 27 dans la section argent du Journal de Montréal. On dit que 25% des employés, selon un sondage, entretiennent ou ont déjà entretenu une relation amoureuse avec un collègue. Ça veut dire une personne sur quatre quand même.
Okay?
Il arrive que, donc, la relation amoureuse se termine pas comme prévu. Quelqu'un peut en être affecté solidement dans l'histoire qui nous occupe. Ce serait Billy.
Billy serait démarré.
Dépression nerveuse, accident de travail, oui ou non. Ben, les tribunaux ont déterminé divers critères qui permettent de décider si on est en présence d'un accident de travail survenu à l'occasion du travail.
Incroyable.
Voici les trois critères.
OK.
Le premier, le lieu et le moment où se vit la relation. Est-ce que ça se vit uniquement au bureau ou ça se vit à la fois au bureau mais aussi à l'extérieur?
Allô?
Hein? Parce que si ça se vit beaucoup à l'extérieur, on n'est plus au travail, là. Okay?
OK?
Alors, vous pouvez répondre, vous autres, ça se vit où, vous deux?
C'est vraiment ici, sur la table de poule.
Okay. Oh, et c'est là. La 8 au coin.
Exactement.
Deuxième critère, l'existence d'un lien de subordination entre les deux ex-amoureux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une relation qui est supérieure à l'autre. Alors là, déjà, ça crée...
Relation d'autorité.
Oui, donc ça jette comme un petit peu d'ombre à la relation, là, tu sais.
Je l'appelais ma petite menthe religieuse. C'est peut-être pour ça.
Moi, c'est peut-être pour ça. Mais ça fait plus longtemps que t'es ici, dans cette émission-là, que moi. Donc, en théorie, t'as une relation de pouvoir par rapport à moi.
Oh,
donc, dans les deux cas, ça fonctionne.
Intéressant.
Parfait, continue.
Et le troisième est un petit peu plus complexe, mais la finalité des activités qui sont exercées dans le cadre de votre travail, à tous les deux employés, est-ce que c'est des échanges professionnels normaux ou si, dans le cadre de votre travail, ça vous amène parfois à parler de sujets personnels qui sont non désirés. Tu sais, si le travail vous amène dans des zones qui pourraient conduire à... Voyez-vous, là...
On fait des sujets personnels.
Oui, des sujets personnels en en ondes, ça
à la radio,
être.
Beaucoup.
Moi,
à
je
la
peux
radio,
pas vivre sans la musique. Ah ouais, moi, je peux pas vivre sans mais, une rupture.
Ouais, mais juste, Shandy Lou, Bobby Jacques, là,
ah ben oui.
C'est notre histoire d'amour.
Ben oui. Ouais.
Une chose est sûre, en tout cas, Billy, dans ton cas, le tribunal va probablement exiger que tu démontres par une expertise médicale que ta relation,
c'était vraiment au travail.
C'est vraiment ta dépression est à cause de la rupture. Il va falloir vraiment que tu le démontres, sinon, il y en a plusieurs qui vont réaliser que, ah non, il y a d'autres facteurs personnels qui ont fait en sorte que ta dépression nerveuse est survenue. Qu'est-ce qu'il y a, Billy?
Ben voyons, Billy.
Ben, je peux pas croire que cette relation-là qui est apparue il y a une minute est déjà terminée. Ça me bouleverge.
T'as aimé l'hypothèse?
Ben non, mais je sais pas. J'ai comme tout bâti une vie dans ma tête que je sais pas si je vais être apte à... Mon petit monde s'écroule. Oh. C'était tellement idéal, cette
on
relation.
Habitait où?
Ben écoute, moi, je sais pas, on habitait où?
C'était... Ben vous habitez chacun chez vous, c'était une relation extra-conjugale,
oui,
clairement.
Vrai. Ben oui, oui.
Puis je t'amenais tout ce que t'avais de besoin. J'étais ton petit chien dans ta sacoche nouvelle. Comment on va faire? Comment je vais faire pour permettre de ça?
C'est une belle idylle.
Billy, c'était peut-être un mauvais exemple.
Ben oui.
Peut-être que j'aurais
dû... C'est Anthony. C'est ça? C'est Anthony? C'est ça?
J'ai rien à dire.
Un plus jeune, c'est ça?
Non, Valérie, c'est plus François Fortin.
T'es horrible, Robert.
Moi, je vise plus vieux que plus jeune.
Michel Harvey, c'est ça?
Ça se pourrait. Stéphane Zurbinski pis sa grosse voix.
Je me demandais où tu t'en allais.
Oh. Ah,
bref. Que je te socle l'information.
On est-tu vraiment en train de vivre ce malaise-là? Oui, oui absolument, dans Debout les comiques.
Le podcast Debout les comiques.
Ça me donne rien de vous parler parce que c'est pas moi qui parle, c'est vos jokes parce que c'est Debout les cas.
Oh, yeah! Certainement! Et on est aussi avec Denis de l'Ac supérieur. Ah ouais, Denis. Et c'est lui qui lance les
hostilités. Denis, là, c'est une machine à gag parce que presque tous les jours, mais à dire tous les jours, il nous en envoie.
Et tellement.
D'après moi, il y a un livre.
Peut-être.
Alors, il lance ça comme ça. Vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un contre vous. Sentir son souffle sur votre nuque. Monter, descendre. Entrer froid, sortir chaud. Vous aimez ça? Ben, prenez l'autobus.
Effectivement. Je continue avec Donald Saint-Martin, un fidèle. Il dit, c'est un Québécois, un Français et un Italien qui sont à la pêche. À un moment donné, l'Italien sort un salami dispendieux. Il en prend une bouchée, puis il te le garoche dans le lac. Et tout ça, là, on a trop chez nous. Ah. Et un Français qui pogne une bouteille de vin, un vin cher, il a des bouches, il prend une gorgée, puis il pitche la bouteille dans le lac. Et tout ça, là, on a trop chez nous. Le Québécois, lui, sauve une bière, prend une gorgée, pogne le Français, le Christ dans le lac et tout ça, là, on en a trop chez nous. Oh! On salue Michael.
Moi, c'est une blague de Miguel Bédard aujourd'hui nous envoie une histoire de deux blondes, bien évidemment. Et il y en a une qui est dans un champ, elle est en train de faire du kayak. Mais dans un champ, tu sais. Et là, il y a une autre blonde qui passe en char, puis là, elle voit la blonde en train de faire du kayak dans le champ, puis là, elle est fort chez Noir. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et là, elle arrête son char, elle ouvre la porte, elle commence à chanter des bêtises à la blonde dans le champ, en disant, voyons, c'est à cause de toi que le monde rit des blondes, ça n'a pas de bon sens. En passant, si je savais nager, j'irais te crisser une volée.
Wow. Moi, c'est un gag de Pascal de Joliette. Il dit, c'est un gars, il dit ça. Il me dit ça à moi. Il dit, c'est un gars dans un bar, comprends-tu? Il est chaud, il est dans le bar. Il a le droit, c'est à ça que ça sert. Et là, il est tellement chaud, il se vomit sa chemise, tu sais. Puis là, il se sent mal. Il dit, il faut pas que ma femme elle découvre ça quand je vais revenir, que je suis complètement chaud, me suis vomi sa chemise. Là, il y a un autre gars qui le voit paniquer. Il vient voir, il dit, il m'a donné un conseil. Mets 20$ dans ta poche de chemise, tu diras à ta femme qu'il y a un cochon sous qui t'a vomi dessus. Puis pour se faire pardonner, il a mis 20$ dans ta poche pour payer le nettoyage.
Wow.
L'autre gars, il dit, mais c'est une bonne idée. OK, il retourne chez eux, il est un peu chaud, rentre. Là, sa femme, elle le voit, elle fait, ha ha! Hein? T'es encore sous, toi? Tu t'es vomi dessus, mon cochon? Et il dit, non, c'est quelqu'un d'autre, il m'a vomi dessus. Et pour s'excuser, il a mis un 20$ dans ma poche. Sa femme, elle fait, OK. Et pourquoi il a mis 40$? Le gars, il dit, ouais, mais moi aussi, chié dans les culottes.
Voyons donc!
Je l'ai tellement pas vu venir!
Moi non plus!
Oh, wow.
chier dans les culottes. Hey, Kenny de Montréal en une petite vite en terminant. Savez-vous pourquoi les T-Rex sont toujours fâchés?
Non.
C'est parce qu'avec leurs petits bras, ils sont pas capables de se crosser.
Ben voyons.
Mais quoi?
Ben voyons.
C'est une petite vite.
Merci beaucoup.
On dit pas crosser, on dit se masturber aux bras.
Et c'est Pascal de Joliette qui va aller voir Billy Talley au Club Soda. Bravo, bien, bien joué. Il m'a mis des culottes aussi. Mon Dieu, bon, Seigneur. Hein?
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.